entrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où ? Radio Balade 101.8.
Magasin gratuit. Je prends ce que je veux et c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit.
Bonjour à tous. Bienvenue dans l'émission Entrée sans payer. Nous voici de retour pour parler de gratuité, de culture libre, de do it yourself et de choses qui n'ont absolument rien à voir, évidemment. Nous sommes ensemble avec Denis.
Et... Salut.
Bah, quand même.
Excuse-moi.
Et nous allons recevoir aujourd'hui Olivier Rudez qui nous parlera de projets dans l'Est de la France, de projets, disons, de... qui sont déjà en cours, hein, de magasins gratuits et aussi de trucothèques qu'ils ont développés et qui marchent fort bien par là-bas.
Ah ouais, classe.
Voilà. Et puis, ben, on va aussi, comme d'habitude, discuter de choses et d'autres, hein, autour de la gratuité. Et ben, on va peut-être voir ça après une pause musicale. Pour commencer, on va s'écouter un morceau qui s'appelle « Ça chauffe », qui est le produit des jam sessions de la gratuiterie de Limoux.
Ouais, d'hier après-midi.
Ouais, exactement. Ah ouais.
Soyez indulgents.
Mais ça chauffe quand même, hein. Ouais. Attention, hein. Okay. Ça a chauffé dans la voiture, sur la radio, ça a vraiment chauffé. Allez hop, c'est parti.
C'est parti.
Sonne nouvelle écrit, l'éricrit de table à pharisie, y'a trop de cafards. Mon extrême ne se mal pas au lourd. Percé par les loups, j'ai appris à crier. On en criait, rempli de bains au cœur. Mettez des balles, rapaces sur l'intimité. J'ai pas cherché l'amour, il m'est tombé dans les bras. Quand ça sert de se cacher, si t'as rien déclaré. À partir ça me placer où que ce soit, je suis dans un appartement. J'pense que c'est déjà très bien. Alors pourquoi vouloir plus grand? Si c'était quoi pour vouloir s'enfermer? Arranger son petit monde pour qu'il soit meilleur que l'autre. Ça t'aidera pas à tout trouver. À moins que tu cherches à te perdre bien. Au fond de la grotte, là-bas je te dis, il fait bien frais. Quand la nuit commence à se lever, j'en pas de bonheur. Mon délire c'est faire pousser des fleurs. La guêtre au des ravages et tout ça, ça fait peur. Sont dispersés, noyés dans le chagrin, la bouteille, le compte levé. Pour me détendre de ce qui a été là, je garde des tricks toute la journée pour pouvoir m'envoler. Le pont n'est pas détruit, c'est juste des attitudes qui se sont accumulées. Le passage est devenu obstrué. Ils sont à l'affût dès que le flux s'ouvre. Mon fusée décolle, mais ça c'est toujours pas vert. J'ai rien contre les reptiles, mais je trouve qu'ils ressemblent beaucoup. Écrivain des protagonistes dont l'empathie a disparu. Botaniste dans l'âme, je ferai passer des fleurs de vie. La coupe est pleine, perdu la soif qui m'inspire. Botaniste dans l'âme, je ferai passer des fleurs de vie. Le thème du texte, s'il ne veut rien dire, c'est quelques mots que tu prendras pour ton compte et qui ne le remplira pas. Ne pose pas de questions, tout est forcé dans ce monde pour être vendu. J'ai pas oublié mon passé, l'abcès se fait de plus en plus, mais le fossé est creusé avec ceux qui prenaient le bus. Reste ton indus. Est-ce que redémarrer? Non, ça fait pas marrer. Redémarrer sur les deux puces, c'est parti pour une dernière mesure bien crade. Sombre l'ambiance dans la salle, je fais du Salvador. Si je sais pas contrôler le mic, j'ai batterie à la FAC. Pourtant, j'ai plus instruit que c'est comme la BAC. Reste en vérité sur le canapé. T'avanceras pas dans ta liste, tu changes de CAP. Es-tu au moins capable de tirer de mon King Juba? Ouais, ça c'est mon cap. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu chauffes, tu chauffes. Tu chauffes, tu chauffes. Tu chauffes, tu chauffes. Tu chauffes, 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 ouais, tu chauffes, tu chauffes, tu vas trouver le thème du texte, ça ne veut rien dire. C'est quelques mots que tu prendras pour ton compte, mais qui ne le remplira pas. Ne pose pas de questions, tu t'es posé dans ce monde pour être vendu, tu chauffes. Tu vas trouver le thème du texte, mais ça ne veut rien dire. Comment tu prendras pour ton compte et qui ne le remplira pas? Ne pose pas de questions, tout est passé dans ce monde pour être vendu. Tu chauffes, tu chauffes. 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 Tu chauffes, tu vas trouver le thème du texte, mais il ne veut rien dire. Quelques mots tu prendras pour ton compte, mais tu ne le rempliras pas. Pose pas de questions, tout est passé dans ce monde pour être vendu. Pose pas de questions, tout est passé dans ce monde pour être vendu. Tu chauffes, tu chauffes. Tu chauffes, tu chauffes. Tu chauffes, tu chauffes.
Donc voilà, c'était Tu chauffes ou Ça chauffe de la, donc de le résultat d'une jam session à la gratuiterie de Limoux, au local sortait sans payer. Donc Olivier, nous recevons donc aujourd'hui Olivier Rudès qui va nous parler de projets dans lesquels il est impliqué. Olivier, est-ce que tu nous entends?
Ouais, je vous entends bien. Bonjour tout le monde.
Salut.
Donc Olivier, tu vas rester avec nous pour l'émission. Au départ, on voulait l'idée, c'est de parler un peu d'actualité. Donc là, il commence à faire bien chaud. L'actualité, c'est évidemment d'aller à la plage. Et alors pourquoi je parle de ça? Parce que donc c'est, on a encore la chance d'avoir des plages en accès libre. Et voilà, donc c'est des petits portion de gratuité un peu dans un monde où tout est privé et où qu'on essaie qu'il serait bien d'essayer de garder Et d'en prendre conscience aussi quand on y est, que en fait c'est pas quelque chose qui est forcément évident et qui peut durer infiniment quoi.
Et ouais.
Vas-y.
Il y a beaucoup de plages en Moselle là-bas ou je sais pas. Où. Vous êtes où, sur Nancy ou Metz là-haut?
Moi je suis sur Metz.
D'accord, ok. Ouais.
Bon, à part un petit bout de plage, à Metz-Plage, non, il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là.
Libre d'accès, il n'y a pas un ticket encore à l'entrée, non, c'est cool.
Je sais même pas si c'est payant ou pas, je me suis pas trop intéressé, je sais pas du tout. Heureusement, il reste quand même encore des choses gratuites. Hein, et...
Ouais, oui, bien sûr. Ouais, heureusement, comme tu dis. Oui, bah, pourquoi la plage, hein, Benji?
Bah, pourquoi la plage? Parce que je pense que c'est, pour moi, enfin, bon, je définis ça un peu comme une sorte de modèle d'espace de gratuité, quoi. Ouais. C'est un lieu où on peut venir librement, donc, et après, chacun peut y faire les usages qu'il a envie, peut l'utiliser à sa manière, et en général, on va dire que c'est quand même, enfin, bon, il y a des limites, hein, qui sont liées à la vie, au vivre ensemble.
Il y a des zones surveillées, tu ne dois pas dépasser. Enfin,
tout à fait. Il y a, mais en dépit, bon, peut-être d'un contrôle croissant, sur, voire d'une privatisation croissante aussi, dans certains pays, il y a quand même encore, voilà, ça me paraît être des choses comme ça qui aussi. Permettre de voir que finalement, bah, une société où y a un libre accès aux ressources, où on peut s'organiser librement, fonctionne aussi, tout simplement.
Oui, que ce soit pas monétisé, oui, bien sûr. Oui.
Ouais, voilà.
Et malheureusement, on voit, enfin justement, j'avais vu un reportage récemment, il y a dans certains pays, effectivement, c'est déjà le cas, c'est devenu très payant, très privatisé en Italie, il y a, dans certaines grandes villes. Il n'y a presque plus de plage gratuite, malheureusement, et c'est un sacré business. Et ceux qui privatisent les plages, après, effectivement, ils font beaucoup d'argent, parce que la location, rien que d'un petit espace pour pouvoir s'allonger, c'est 20 euros la journée, des choses comme ça. Donc, il y a du business que dans ce monde marchand qui essaye de se greffer à différents endroits, même l'air, maintenant, l'air, c'est une des choses, des rares choses gratuites, mais il y en a même qui commencent à vendre des capsules d'air pures, des choses comme ça, dans certains pays, donc...
Eh oui.
On va arriver vers du bon sens, mais la folie va assez loin avant d'arriver vers du bon sens.
Ouais, c'est clair.
Bah oui, non, mais c'est vrai que bon, nous qui travaillons tous dans un sens, dans une, on va dire dans le sens d'une libération un peu, hein, des ressources avec la gratuité, il faut se dire qu'il y a aussi des forces qui vont dans le sens inverse, quoi. Et qu'on maîtrise pas forcément. Enfin, et sur lesquelles peut-être là une action politique est peut-être un peu le seul moyen d'agir, quoi. Enfin. En tout cas, par exemple, sur des choses comme la privatisation des littoraux, bah, c'est le droit qui... Il n'y a que le droit, hein, qui peut...
Ouais, c'est la loi littorale aussi, quoi.
Ouais, c'est ça. Choix,
Mais bon, je trouve qu'en France, ils détournent l'accès aux plages par les parkings payants, par exemple. Donc les familles ne peuvent plus trop venir, enfin, tu vois, ça coûte une blinde la journée de garer sa bagnole. Ou...
Ouais, tout voilà, à fait, ouais, ouais. Ouais.
Je pense à ça.
Et puis il y a aussi le problème de la plage comme attracteur. Et là c'est aussi ça me paraît intéressant du point de vue de la gratuité, parce que la gratuité peut aussi être utilisée comme un attracteur, on va dire, pour attirer du monde. Parce que, voilà, la plage c'est gratuit.
Ouais,
on peut...
la bouffe, hein.
Et à côté, alors sur les plages méditerranéennes, moi je trouve que là c'est vraiment flagrant. C'est-à-dire, t'as la plage, un petit muret, on va dire, une certaine hauteur, et derrière les restaurants, boum quoi. Les restaurants où ça dépote toute la journée. Donc, voilà.
Ouais. Et ce qui est assez dingue en Italie, disait, ou là, quand ils, dans une grande ville, je sais plus, c'était peut-être Naples, mais j'ai un doute, quand on était sur l'espace public, quand on marchait le long de la mer, on pouvait même plus voir la mer parce que les espaces privatifs gâchaient la vue et c'était même plus possible de voir gratuitement la mer de loin. Il y avait comme un mur devant soi et.
Ouais.
Et pour aller voir la mer, il fallait payer jusqu'à là, quoi. Ou aller plus loin, s'éloigner de la ville, mais...
Mmh. Oui, oui, oui.
Ouais, l'Italie est presque un peu le modèle pour ça, enfin, hein, il me semble, hein. Après, je veux pas stigmatiser l'Italie, mais...
En Europe, tu veux dire.
Ouais, ouais, en Europe, ouais, c'est...
Après, j'ose même pas imaginer ailleurs, quoi. Ouais.
Ouais. Donc voilà, défendons les plages gratuites.
Et on voulait parler de la loi aussi sur le RSA, la vite fait aborder ça. On essaye d'aborder un petit peu l'info là, au brûle. Il y a une loi sur le RSA, sur les 15 heures obligatoires. Enfin, Alloués au travail. Enfin,
oui.
Alors, qu'est-ce que t'en penses, Benji, de ça, là ? Pour résumer ce qu'on disait tout à l'heure.
Que c'est une belle connerie. Aussi, ouais. Non, je. Mais au-delà de ça, bon, au-delà de l'aspect liberticide de la loi, je pense que ça va en plus être complètement inefficace, à mon avis. Enfin, il y a plein d'effets secondaires qui vont sans doute. Enfin, inefficace, je veux dire, dans le sens où certains se disent voilà, ça va être efficace pour mettre les gens au travail.
Mais
déjà, c'est supposé déjà qu'ils ont pas la volonté de travailler, ce qui est pas forcément vrai du tout. Mais
ouais.
Mais en plus, ce que je trouve très grave par rapport à tout ça, c'est que quand on veut passer des lois telles que celle-ci, on est vraiment à côté de la plaque. Enfin, on est à côté des réalités scientifiques, sociétales, sociales, environnementales. Ce que tout pousse à dire aujourd'hui, qu'il y a beaucoup trop d'activités humaines. Qu'il faut produire moins, qu'il y a l'intelligence artificielle qui arrive à grande vitesse, qui remplace les travaux humains, que les gens se rendent de plus en plus compte qu'en fait c'est pas des feignants et qu'il faut leur donner une carotte pour qu'ils avancent. Là, il y a tous les signaux qui montrent qu'il faut aller vers justement un épanouissement global et général et faire confiance les uns les autres. Il y en a encore qui sont dans la vieille philosophie à vouloir faire croire ou qui croient encore eux-mêmes qu'il faut forcer les gens pour que ça se passe bien à côté de la plaque, quoi.
C'est complètement ça. Ouais. C'est le truc affligeant, c'est cette non-compréhension des réalités, finalement, quoi. Puisque l'intelligence artificielle remplace tout ce qui est, on va dire, de bureau avec l'ordinateur, l'informatique. Les machines-outils remplacent l'ouvrier, donc il y a de moins en moins de boulot, donc on devrait travailler moins, partager le travail. Et là, on va à l'encontre même d'un revenu universel. On veut faire travailler à mi-temps, alors pourquoi faire des mi-temps, là, pourquoi pas payer des gens à mi-temps? Parce que c'est avoir le RSA pour ne pas être payé et faire un mi-temps, c'est, tout ça, c'est absurde. On dirait que c'est même pas réfléchi, quoi. Ou alors, on passe complètement à côté de
ça. Honnêtement, du point de vue économique, moi, je ne vois vraiment pas l'intérêt, mais aussi du point de vue des évolutions sociétales. Moi, je pense que c'est du populisme. C'est-à-dire, on fait une mesure qui est assez populaire, parce que on sait que le RSA est pas très populaire. C'est une minorité qui est en bas de l'échelle, donc hop.
Qui peut pas se défendre, donc on tape sur la minorité pour cacher le problème. Le manque d'idées pour faire évoluer la société, simplement, quoi.
Non, moi, ce que je me demande souvent, les personnes qui veulent passer les lois là, est-ce qu'elles y croient dur comme fer ? Est-ce que c'est leur système de valeurs qu'ils y pensent vraiment, que c'est la bonne solution, ou est-ce qu'ils veulent vraiment savoir que c'est une société de plus en plus cadenassée où on supprime les libertés, qu'ils le font consciemment? Je me demande ou s'ils ont été formatés à cette idéologie et qu'ils pensent que c'est la meilleure façon de faire.
Je crois même qu'ils sont trop bêtes pour ça, quoi. Non mais franchement, quoi, on dirait c'est l'effet buzz, quoi. Il faut qu'ils inventent quelque chose de plus absurde tous les jours, quoi,
pour
énerver les gens, simplement, quoi.
Ouais, c'est ça. Puis quand je vois l'ambiance qu'il peut y avoir dans les réunions en général, il y a aussi peut-être, je trouve, de plus en plus, on est dans une sorte de peur de la déviance d'opinion, enfin, tu vois, de donner son point de vue, simplement un point de vue qui serait un peu trop extrême par rapport à un truc qui fait consensus. Et comme ce qui fait que du coup tu peux avoir des trucs comme ça qui vont un effet de mode, et après plus personne va oser contredire. Après c'est un ressenti que j'ai, ça, hein. J'ai pas de
Après ça, il y a vraiment des études scientifiques, hein, qui montrent qu'on veut se fondre dans la masse, qu'on a du mal à se démarquer, qu'on a peur d'avoir un avis différent, de le mettre en avant. Ça, c'est vraiment, il y a plein d'études qui montrent que c'est dur de s'affirmer, qu'on préfère suivre des choses, même si on sait que c'est faux, de suivre pour pas mettre en avant notre désaccord. Et c'est vrai qu'en plus, on est vraiment dans une société. Moi personnellement, effectivement, je suis pour un monde sans argent. Et avec l'argent, au minimum, il faudrait la mise en place, comme j'ai entendu là, un revenu inconditionnel, un revenu de base. Et là, quand on veut faire travailler les gens contre RSA, on va vraiment à l'encontre. Là, c'est l'antithèse du revenu de base, quoi.
Bon, Olivier, tu fais une bonne transition. Du coup, on va pouvoir en parler après une petite pause musicale. Tu vas nous présenter votre projet à Metz, qui, comme je disais, est plus qu'un projet, hein, c'est déjà quelque chose qui est bien implanté, bien en cours, mais tu vas nous en parler de façon plus approfondie, et puis après on abordera toutes ces questions.
Ok, ça marche, avec plaisir.
On envoie un morceau qui s'appelle La mère de la tranquillité, et qui est encore moins audible que le précédent. Non, on passe souvent de la musique un peu dure à écouter dans cette émission. Allez, c'est parti.
Bientôt, la Terre va entendre ses mots. Ici, la base de la tranquillité, l'aigle s'est posé.
Salut Olivier, t'es toujours avec nous là ?
Toujours avec vous.
Ok, nickel.
J'espère que vous m'entendez bien, je suis dehors, il y a du vent, j'espère que ça va.
Oui, on a entendu.
Super.
C'est super. Voilà, donc tu vas nous parler un petit peu de ta façon de, enfin de, comment dire, de la structure de la gratuiterie là-haut, quoi. Et puis nous, on va aussi un petit peu parler de la nôtre, enfin un petit peu comparer, voir ce qui ressemble, voir ce qui diffère. Et puis comme ça, tu pourras parler, enchaîner sur tes projets, quoi, un petit peu, quoi. Ensuite. Donc okay. Ça fait combien de temps que, pour voilà, première question, ça fait combien de temps que vous êtes ouvert là-haut, quoi?
Donc, pour expliquer un peu le contexte, donc on est une association, c'est l'association Motris, M-O-T-R-I-S, qui veut dire Mouvement pour une transition intelligente de la société, qui a mis en place différentes initiatives, dont on appelle ça des magasins gratuits. On a mis plein d'activités en place, et l'objectif général de l'association, c'est de participer à la mise en place d'une structure sociétale qui soit soutenable pour nous et les futures générations. Donc il y a toute une partie réflexion sur quelle société pour demain, comment l'humanité pourrait s'organiser sans tout détruire. Toute une partie réflexion sur comment on fait pour y parvenir à cette société soutenable. Et après, différentes actions, que ça soit du récupérer des biodéchets dans des restaurants à l'aide d'un vélo électrique et d'une remorque pour en faire du compost, activité. Et ouais, on a plein d'activités à partir d'objets destinés à la poubelle qui ne sont pas réparables. Leur redonner une seconde vie en les réutilisant différemment, participer à la plantation de petites forêts urbaines à Metz, il y a différents projets de ce type. Mais après, c'est vrai que les actions phares, ce sont les trois magasins gratuits qu'on a mis en place, et le premier, on l'a mis, il me semble que c'était en 2018, dans un quartier de Metz, et après, un ou deux ans après, on a développé un second magasin gratuit dans un autre quartier à Metz. Et puis un troisième, encore dans un autre quartier, il y a à peu près deux ans en arrière.
D'accord. Et pour qu'on se visualise un petit peu, c'est il y a quelle surface un petit peu dans chaque magasin, quoi. Qu'est-ce qu'on y trouve et,
Donc c'est vrai que chaque magasin, c'est des surfaces assez petites. Il y a à peu près, il y en a un, c'est à peu près 40 mètres carrés. Et les deux autres sont quand même un peu plus grands. Il y a à peu près de surface disponible pour les gens, ça a à peu près 50 mètres carrés, 60 mètres carrés.
D'accord.
Ou même pas, c'est à peu près 50 mètres carrés par magasin environ. Donc voilà, et on y trouve après, chacun peut venir y déposer des objets et chacun peut en prendre gratuitement et librement, et on peut soit déposer, soit prendre, ou soit les deux.
Okay.
Donc après, il y a un peu de tout, comme les différents magasins gratuits en France, j'imagine, il y a des jeux, la vaisselle, de l'outillage, du matériel sportif, de la décoration, des vêtements, des livres.
D'accord.
Donc nous, on accepte tout. Sauf les objets trop encombrants, effectivement, parce qu'on n'a pas assez de place.
Oui, genre meubles.
Ouais, ça, malheureusement, on ne peut pas faire. Et puis, on sensibilise aussi de nous amener des choses en bon état, qui fonctionnent.
Bon, je sais qu'à la gratuité, à Limon, on a beaucoup, beaucoup de vêtements.
Ah, ça, les vêtements.
Donc, c'est le truc, ça arrive, ça repart, il y a toujours plein de gens qui essayent tous les vêtements, quoi. Vous êtes en location, comment ça marche au niveau
Donc je rebondis juste sur les vêtements, effectivement, nous aussi on a énormément de vêtements, et ça montre aussi, et les livres aussi, ça montre encore plein de choses aussi, ça montre notre société de la surproduction, on est toujours en train, il y a des entreprises qui veulent toujours vendre de nouveaux vêtements, tout ça, alors qu'il y en a tellement déjà en circulation qu'ils ne sont pas utilisés. Et nous on en donne vraiment énormément des vêtements, mais malgré qu'on en donne énormément, des fois on en a trop en stock. Donc on est obligé de dire aux gens, au bout d'un moment, nous nous en ramenez plus, ou on organise des événements ponctuels, des zones de gratuité.
Ouais.
Et même des fois, on dit, on organise des zones de gratuité, on va que donner, et on dit aux gens, ne rapportez rien, c'est pour un peu liquider les stocks, parce qu'on a trop de choses, trop
d'accord.
de vêtements.
Tout. Ouais. Nous, je sais que de notre côté, on va essayer de faire des stocks pour l'hiver, parce que là, en ce moment, on a beaucoup d'anoraks, de pulls, etc. Bon, et puis faire tourner les stocks comme ça, mettre dans des sacs et puis stocker dans des endroits, quoi.
Il y a un projet aussi de faire des espaces de gratuité de rue avec des habits.
Ouais. Oui, voilà.
En
parler, Benji.
Oui, c'est un petit truc, c'est de faire des étendoirs de gratuité, on appelle ça comme ça. Mais donc c'est simplement tu vas dans la rue, tu essaies de trouver un endroit qui est approprié, et tu tends des fils et tu fais un petit espace de gratuité improvisé, quoi. Alors
oui, gratuité,
ce qui est bien, c'est que la légèreté du dispositif fait que t'as pas besoin de demander d'autorisation, moi je pense que c'est pas la peine, à ce niveau là là pour le coup ça peut dépendre. On peut aussi faire un truc plus sérieux, mais plus sérieux, je veux dire plus formel. Mais donc voilà, ça peut être des pistes comme ça, mais je pense qu'il faut explorer au maximum. En se disant aussi, bon, on n'est pas non plus des structures pour écouler, effectivement, là je te rejoins Olivier, on n'est pas des structures pour écouler le surplus de la société de consommation, quoi, mais pour, au contraire, réfléchir à la façon dont on consomme et par l'expérience. Ouais, ça, ça a été un des points forts, enfin, un des moteurs, on va dire, de nos projets au départ. C'est de dire aussi, un des meilleurs moyens de comprendre comment on peut faire différemment, c'est d'expérimenter, quoi. D'aller directement sur le terrain et hop, on fait ce qu'on a envie de faire pour essayer de vivre sans argent, quoi. Enfin, par l'expérience, quoi. Je sais pas si ça te fait écho dans votre démarche. Olivier ?
Ah oui, ah, pardon. Ouais. Oui, mais surtout, ouais, je pensais aux zones de gratuité. Là aussi, des fois, on voit aussi la quantité de choses qu'on a. Enfin, parce que là aussi, pendant les zones de gratuité, donc les événements ponctuels, donc là, c'est comme une brocante, mais tout est gratuit. Là aussi, quand on fait ça sur une journée ou deux journées, dans un espace plus grand, où là, vraiment, il y a de l'espace pour beaucoup de monde, là aussi, toute la journée, on n'arrête pas, on donne plein d'objets. Et ce qui est fabuleux, enfin, ce qui est hallucinant, c'est que le soir, généralement, il nous reste encore énormément des objets. Donc, on en donne énormément, mais on en reçoit encore plus. Ouais. Donc, avant d'organiser une zone de gratuité, on est déjà obligé de réfléchir en amont, bah, qu'est-ce qu'on va faire des stocks qui vont rester, parce que maintenant, on a l'habitude, on sait que malgré la quantité impressionnante d'objets pris, bah, il y en a encore plus qui sont apportés. Mais... des fois, il y a des personnes qui ramènent des camionnettes remplies d'objets. Avec les trois magasins gratuits, on peut un peu les répartir, mais après, il faut anticiper, trouver d'autres associations qui ont besoin de choses et...
Mais intellectuellement parlant, je trouve que c'est ça qui est super. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que plutôt que de les revendre sur eBay, plutôt que de les porter, ils sont contents de s'en débarrasser, de les porter, de les donner, quoi. Il n'y a plus cette thésaurisation chez soi, quoi, de garder des trucs qui ne servent plus, etc. Donc là, on touche le fait de pouvoir vivre aussi sans acheter et puis avoir plaisir à donner, quoi, je trouve...
Le plaisir de donner, ouais. Ça c'est quand même...
Il faut pas l'oublier. Moi je trouve ça toujours hallucinant, je dis, bah, les choses partent, mais il y a tout de suite quelqu'un qui ramène des vêtements, des objets, tous les jours. C'est ça qui est... Voilà, quoi. Moi c'est ça qui m'épate, quoi, tous les jours. Aussi.
Parce que là, quand tu dis tu participes à un espace de gratuité dans ton secteur, c'est ça?
Ben, moi, je suis même espace de gratuité que Benji, que Benjamin.
D'accord.
Ouais,
okay.
Limoux, hein,
ouais,
bon, ouais.
D'accord.
Ouais. Okay. Oui, bah, si tu veux. Alors, par rapport à ce que tu dis, tu vois, bon, il y a une association, mais qui, c'est un fonctionnement un peu différent qui se rapproche plus de ce qui se fait dans, par exemple, dans le logiciel libre, tu vois. C'est-à-dire que la commune, il y a des il y a plusieurs projets et chaque projet fonctionne avec des collectifs. Et après, il y a une association qui potentiellement va plus servir, on va dire, d'écran, disons, pour d'écran avec les institutions, tu vois. C'est-à-dire, si jamais. C'est le collectif qui est le moteur, tu vois. Et après, s'il y a un pépin, ou si éventuellement, ou si on veut un levier, par exemple, je sais pas, pour des assurances ou un truc comme ça, qui nous permettent de faire des événements, à ce moment-là, l'association. Et utilisé. Mais tu vois, en soi, l'association, c'est pas elle qui est le moteur des projets. Voilà, c'est pour expliquer un peu le fonctionnement.
C'est bien, parce que l'esprit collectif, c'est hyper important, parce que effectivement, que l'association ou une autre structure reste qu'un outil et pas une fin en soi, parce que
oui,
des fois, malheureusement, ça peut être, il y a de la concurrence entre les associations ou des choses comme ça, ou c'est une personne qui va devoir gérer toute la partie administrative de l'association et peut-être qu'un jour elle va en avoir marre et ça met en péril l'association. Donc je sais bien que c'est ça. Enfin, je trouve ça super bien que ça soit des individus qui s'organisent et qui utilisent les associations comme outil pour. Parce que malheureusement, dans notre société actuelle, effectivement, on est obligé de mettre en place des outils juridiques et compagnie pour pouvoir faire certaines choses.
Oui, voilà, ouais.
Comme nous, pour répondre à la question de tout à l'heure, pour nos locaux, effectivement, on est locataire et. Donc on signe des baux avec avec des bailleurs et voilà, donc on est obligé aussi d'utiliser une assurance pour tout ça.
Et du coup ça génère des problèmes ou au niveau du financement vous en sortez comment? Est-ce que il y a des salariés? Comment ça se passe?
Donc au niveau de nos activités, donc ça nécessite presque pas d'argent. Au niveau des trois magasins gratuits, en gros, pour les loyers, on paye, c'est soit mise à disposition gratuite, soit des subventions qui compensent. Donc, en gros, on paye presque rien au niveau des loyers. Donc on paye les charges, mais bon, les charges, c'est pas non plus des sommes astronomiques, et donc les assurances, l'électricité, mais par mois, ça nous revient pas extrêmement cher. Et après, c'est effectivement, il y a un emploi à temps plein et un mi-temps, et c'est vraiment là, c'est au niveau de la masse salariale que effectivement là, ça engendre des sommes très importantes. Et là, ce sont des subventions qui couvrent la majorité des frais de un emploi et demi, et aussi des dons mensuels. Mais si on n'avait pas les emplois, ben nos activités n'engendreraient presque aucun coût.
D'accord.
Parce que par un espace de gratuité, ce qui pourrait revenir cher, ouais, c'est le local. Et là, il faut essayer de s'organiser pour trouver une solution. Ben, non, généralement, que ce soit les bailleurs ou même une collectivité, enfin, vu tous les objectifs et les intérêts d'un tel projet, ben, ils peuvent parfois assez facilement comprendre l'intérêt et mettre à disposition gratuite ou
ouais.
Mais un local.
Tout à fait. Ils se rendent. Enfin, bon, dans la région, donc on a ouvert un magasin gratuit dans un village des Pyrénées à Puyvert. Et franchement, ça permet à des centaines de gens de s'habiller, enfin, ou de trouver de la vaisselle. Genre, on se rend pas compte de l'efficacité avec des moyens dérisoires que ça peut avoir. Enfin, je pense que les En tout cas, sur des modèles comme ça, assez informels, ça fonctionne vraiment très bien, quoi. Enfin, est-ce que tu arrives au même constat ou
Ah ouais, ça fonctionne, c'est hallucinant les retombées. Au début, quand on voulait mettre en place ce projet, donc un magasin gratuit, ça n'existait pas à Metz.
Oui.
Et quand on en discutait avec nos interlocuteurs, souvent on entendait des peurs, ça va pas fonctionner, les gens vont pas apporter, il y aura pas assez d'objets, les gens en prendront pas soin. Enfin,
des grands classiques.
Mais, ouais, voilà. Et nous, en fait, on n'a pas trop étudié les choses, on a dit on se lance et on verra bien. Et en fait, mais tout se passe à. Bon, après, c'est sûr, certaines fois il y a des difficultés, mais c'est gérable, mais de manière générale, ça se passe super bien. Et il y a plein de gens qui veulent venir donner un coup de main, participer aux initiatives. C'est souvent les habitants du quartier qui viennent et qui ont envie de participer. Et puis il y a un réel intérêt pour les gens de venir apporter des objets, d'en prendre. Malheureusement, on voit que y a beaucoup aussi de personnes qui viennent parce qu'elles sont vraiment dans la précarité et c'est vraiment très utile pour elles de récupérer des objets gratuitement. Donc là, c'est l'aspect triste de notre société, hein, c'est que il y a beaucoup de gens dans la précarité. Malheureusement, j'ai l'impression de plus en plus.
Oui. Bon, même constat, hein, ça c'est sûr.
Et nous, on dit bien aussi, il y a des gens, souvent dans notre philosophie aussi, les gens qui sont plus qui n'ont pas de difficultés financières, des fois elles vont dire, quand elles apportent des objets, elles disent, si vous voyez des choses, prenez-en. Mais des fois on entend, ah non, j'ose pas, je préfère les laisser à des personnes qui en ont plus besoin. Donc là, il y a toute la partie
très
sensibilisation pour
ouais.
dire qu'effectivement, dans notre société horrible, ça permet aux gens qui s'en sortent moins bien, qui ont plus de difficultés financières, d'avoir accès à des objets, mais c'est pas que le seul objectif. L'objectif, c'est que aussi consommer moins, partager, collaborer, et que ça soit. Et si vraiment c'est un esprit de changement de société, c'est pas les riches qui doivent secourir les pauvres, c'est il faut éliminer la pauvreté.
Oui.
Et pour éliminer la pauvreté, c'est uniquement un monde de coopération et de partage qui permettra de. Et il faut que tout le monde soit dans cette logique de mettre en commun, partager.
D'ailleurs, ce commentaire qu'on entend souvent, il y a quand même un peu ce préjugé, cette représentation de l'idée qu'on serait dans une société de pénurie encore, enfin, de rareté, alors que justement, comme on arrive au même constat que non, on est dans une société d'abondance où on se retrouve avec une surproduction. Donc le problème n'est plus dans la rareté, quoi. Je veux dire, c'est plus dans le partage, mais on reste quand même sur ces vieilles représentations qui sont. On est encore dans la rareté. Et pour rejoindre le RSA, c'est si on paye pas les gens, ils vont pas travailler. Enfin, c'est tout un ensemble de préjugés qui touchent plus à un niveau politique.
J'ai l'impression c'est qu'une histoire là. Enfin, toutes les solutions, on pourrait les appliquer pour plein de problématiques. Il y a les solutions. Donc c'est l'histoire de système de valeurs et de volonté. Si on a vraiment la volonté d'éradiquer les problèmes, si on a la volonté d'éradiquer la faim dans le monde, si on a la volonté d'éradiquer la pauvreté, on peut l'éradiquer très 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 rapidement. Hein. Les solutions sont là. C'est juste il faut y croire.
Oui.
Et après avoir la volonté de le faire.
On va en parler. On se fait encore une petite pause musicale, Olivier. On se retrouve juste après. On va écouter un morceau qui s'appelle IUFM. On se retrouve dans 5 minutes sur Radio Balade 101.8. À très bientôt.
Lui, c'est pas trop tôt. C'est pendant le temps qu'on change, on a oublié de changer.
Ah
c'est reparti sur Radio Balade 101.8 dans l'émission Entrée sans payer. On est avec Olivier Rudez aujourd'hui qui nous arrive de la ville de Metz. Olivier, t'es bien toujours là ?
Je suis toujours là.
Super. Donc on a dans le studio trois petites filles, hein, qui peuvent dire un mot sur la gratuiterie aussi. Allez. Les filles, vous en pensez quoi de la gratuiterie ?
Je trouve que c'est très très bien.
Moi, je trouve que c'est trop bien.
Et pourquoi ?
Bah parce que c'est gratuit.
Parce que c'est gratuit.
Ah, c'est okay.
Rapprochez-vous un peu les filles parce qu'on n'entend pas.
On redit ce qu'on a dit.
Ouais.
Je trouve que c'est bien parce que c'est gratuit et bah ça sert.
Bon allez hop. Donc c'est alors en fait si tu veux pour expliquer alors, parce que du coup c'est intéressant parce que ça embraye un peu sur le fonctionnement. Donc la gratuiterie c'est dans un à Limoux, c'est dans un lieu privé. Et donc il y a souvent mes filles qui sont là évidemment. Voilà. Donc voilà, c'est pour dire aussi pour essayer de balayer un peu sur la diversité des différents modes de fonctionnement. Et on s'interrogeait avec Denis aussi sur les activités que vous faites à côté. Est-ce que c'est limité aux objets ou est-ce qu'il y a aussi aux dons parce que tu me parlais de prêts aussi je crois.
Oui, et puis de récup un peu.
Ouais.
De recyclage quoi.
Effectivement, on fait aussi du prêt gratuit. Donc ça, on l'avait mis en place dès le début. Nous, nos magasins gratuits, on les appelle des trucothèques. Donc dès la première trucothèque, on avait mis en place du prêt gratuit. Mais après, progressivement, on a arrêté parce qu'on ne faisait pas assez sérieusement. Donc on a préféré, les gens qui animaient l'espace, on préférait arrêter. Et là, depuis peu, c'est depuis début de l'année, on a recommencé à prêter gratuitement des objets au sein d'une trucothèque, mais de manière mieux organisée. Et là, ça fonctionne bien. Et moi je trouve que c'est hyper important parce que le partage, la collaboration, la gratuité c'est fondamental. Mais aussi parce que si on récupère gratuitement un appareil raquette et qu'on va le posséder et l'utiliser trois fois dans l'année, donc c'est gratuit mais c'est une mauvaise gestion des ressources. Et en plus, de plus en plus on parle de la rareté de certains matériaux. Et alors qu'on est, si on regarde chez nous, on possède presque tous plein d'objets qu'on utilise très peu.
Oui.
Une perceuse, un jeu de société, enfin même des fois les jeux de société sont dans nos placards et on les utilise plus. Donc nous ce qu'on veut faire à petite échelle c'est montrer qu'il y a plein d'objets qu'on pourrait mettre pour le bien commun. Donc là nous on prête gratuitement des objets. Si quelqu'un vient récupérer une visseuse, ben, il l'utilise, il fait ses trous, il rapporte la perceuse, comme ça une autre personne peut la réutiliser.
Oui, oui, oui.
Donc nous c'est vraiment à petite échelle, mais l'objectif c'est de faire sensibiliser par rapport à ça. Et après, de donner envie à d'autres acteurs, que ce soit les collectivités, d'autres associations, enfin, ou tous ceux qui veulent, ou même de faire des projets communs, pour que cette mise en commun des objets se généralise, quoi. Et après, c'est... Parce qu'au lieu de produire, par exemple, 400 tondeuses à gazon, peut-être qu'on pourrait en produire 10 si on les mettait en commun.
Oui, une sorte de Kuma urbaine, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai.
Et après, c'est vraiment pour arriver, après, généraliser ça au sein d'une ville. Après, si ça fonctionne bien au sein d'une ville, que ça se généralise au sein d'une autre ville. Et après, même, pourquoi pas, que ça soit la philosophie au niveau d'un pays. Et après, l'objectif, c'est que c'est démarrer localement des petits projets locaux. Et après, que ça aille à grande échelle et pour aller après beaucoup plus loin. Une fois qu'on dit, on commence à mettre les objets pour le bien commun. Et dire, les ressources naturelles de notre planète Terre qui nous permettent de vivre, est-ce qu'il faudrait pas aussi les mettre en héritage commun de tous les peuples sur Terre, au lieu que certains pays, comme la France, s'accaparent les ressources au détriment d'autres pays. Donc c'est ça qui est super, avec des petits projets locaux, ça peut aboutir sur des réflexions globales, et pour vraiment, après, que ça change vraiment au niveau global.
Alors là, j'embraye direct, mais est-ce que, tu vois, comme pour la discussion qu'on avait sur les plages, est-ce que on peut vraiment espérer, enfin, je pense que, moi je suis partisan aussi, tu vois, de passer par des petits projets locaux, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un débat politique derrière, tu vois, enfin, des leviers d'action politique et macro-politique, on va dire, qui dépassent le cadre de l'action directe, quoi.
Moi, je dis qu'il faut, pour la transition de la société et tout, il faut agir à tous les niveaux, hein. Il faut agir au niveau politique, il faut agir au niveau individuel, mettre des actions aussi collectives, locales en place, à tous les niveaux, et après, c'est à chacun de voir quel type d'action il préfère. Moi, par exemple, en politique, j'y crois tellement plus à ces institutions politiques, tout ça, donc j'aurais du mal à aller m'engager là-dedans, donc je préfère m'engager, moi, dans des actions locales et dans des choses au niveau citoyen. Mais après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien s'engager au niveau politique, et c'est hyper important que ce type soit véhiculé, essayer de créer des partis politiques pour la gratuité, des choses comme ça. Je sais que ça existe déjà, il y a des gens qui essayent d'agir dans cette direction. Donc voilà, à tous les niveaux, c'est important, et ce qui est hyper encourageant, je vois avec le collectif Mosica, ils ont mis en place récemment une journée de la gratuité. Eux, c'est un collectif qui milite aussi pour une société sans argent. et ils sont soutenus par des mairies. Il y a des mairies qui croient dur comme fer au projet développé par Mosica, et c'est bien de voir que même les collectivités, certaines, commencent à réfléchir à de nouvelles réalités. Il y a aussi des jeunes qui ont été un peu comme nous, qui commencent à rejoindre des institutions, rejoindre des collectivités, rejoindre des entreprises avec des idées comme celle-ci. Des fois, on a des interlocuteurs dans les collectivités qui ont des idées presque comme nous. Donc ça, c'est fabuleux. Ça veut dire que petit à petit, ceux qui ont des idées un peu plus de l'ancien temps, on va dire, ils partent à la retraite, tout ça. Et c'est les jeunes qui arrivent avec parfois des idées assez novatrices. Donc moi, je suis assez optimiste. Hein. Après, l'objectif, c'est d'être réaliste. Il ne faut pas ni être pessimiste, ni être optimiste. C'est d'être réaliste et agir dans le présent pour créer l'avenir comme on a envie. Mais honnêtement, pour moi, je pense que ça, avec Internet, les idées circulent. On voit bien la folie de notre monde actuel, qu'il y a tellement de problématiques qui s'accumulent. Et parfois, il faut aller jusqu'au bout de la folie pour dire, bon, on n'en veut plus de cette chose et créer autre chose. Et je pense que ça peut être très vite. Des fois, ça prend du temps. Et la bascule peut se faire assez rapidement vers une nouvelle organisation de la société. Ah oui. Et pour moi, ça me paraît être une évidence, mais peut-être que je me trompe. J'espère ne pas me tromper, mais j'imagine que là, dans les années, bon, des fois, ça peut prendre des décennies, hein, mais j'imagine qu'il va y avoir des grands changements au niveau de notre façon de gérer la société.
Est-ce qu'on aura le choix, hein? Enfin, Denis...
La société évolue en permanence, donc elle est pas figée, et ça va là-dessus, oui, c'est sûr, là. Se rend compte du non-sens de notre société, où elle va, quoi. Elle a plus de crédibilité quelque part, quoi. Donc ça va dans ce sens, oui, mais ça, à une vie d'homme, c'est vrai que ça nous paraît long, mais il y a des petits signes qui montrent qu'on va là-dedans, quoi. Enfin, du moins, c'est le désir des gens, quoi. Et je pensais aussi mettre un point sur l'aspect social, créer du lien social en permanent. Donc, je vois avec le local, il y a sans arrêt des gens, c'est leur but de promenade, sinon ils seraient chez eux, peut-être devant la télévision ou seuls, et ils viennent là pour discuter, pour rencontrer des gens. Et nous, le truc, il y a quelqu'un qui s'est impliqué, il est à la retraite, il est là dans le local... 24 du matin au soir. On a l'outil WhatsApp pour informer le réseau que c'est ouvert, etc. Il y a des activités qui sont proposées par des bénévoles, donc on essaye de faire des plannings avec on a des réunions où on peut discuter de ce qui peut être mis en place comme planning, comme un atelier couture ou faire de l'auto-édition. Voilà quoi. Et je trouve que ça recrée du lien social dans des quartiers où finalement les gens ne vont dans la rue que pour aller au café ou faire de ses courses, quoi. Donc je trouve que cette part est vachement, est très importante. Et là, ça touche tout le monde, et enfin, ça touche toutes les couches de la société, quoi.
Ouais, que ça soit au niveau de l'âge, là on entendait que ça soit les enfants, les adultes, les personnes plus âgées, ouais, ça permet de créer du lien social intergénérationnel,
oui,
et de la mixité sociale. Ouais.
Pas forcément des gens qui politiquement y avaient réfléchi à la gratuité avant, mais qui voient que c'est sympa et que ça marche et qui s'y impliquent, j'allais dire, malgré eux, enfin, qui sont là. Quoi.
Moi je crois beaucoup à ça quand même, cet apprentissage par l'expérience, c'est-à-dire un peu comme quand on veut apprendre un jeu. Tu peux soit effectivement passer par le manuel, apprendre les règles, quelqu'un t'explique, mais des fois ça met du temps à rentrer, on va dire, ou ça rentre pas. Et quand tu vas pratiquer le jeu, là tu vas comprendre très rapidement. Enfin, c'est bien souvent, on sait, en 2 minutes, ça y est, c'est clair, t'as à peu près compris les règles. Et donc je pense que ça, pour ça, c'est aussi l'action directe est vraiment très importante, parce que en plus, désolé. Ça permet de aussi d'expérimenter les règles et aussi d'en créer des nouvelles directement.
Je dirais même que les règles s'imposent d'elles-mêmes, quoi. C'est le bon sens, quoi.
Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà,
Et on voit que les gens veulent s'impliquer là-dedans, quoi. Ont besoin de redonner un sens à leur vie, quoi, en proposant des activités dont ils sentent qu'ils peuvent faire partager leur savoir, etc.
Olivier, vous observez les mêmes choses? Quelle conclusion vous en tirez?
C'est peut-être une plus grande ville chez vous.
Donc, c'est... C'est ouais. sûr que c'est hyper important. Enfin, la théorie, vous parlez du monde de demain, c'est hyper important. Mais si c'est que de la théorie, les gens vont avoir du mal à se projeter, à voir comment que ça s'organise. Et que si on a la théorie plus des actions concrètes, c'est sûr, c'est à petite échelle, c'est pas ça qui va renverser la société du jour au lendemain. Mais le concret, c'est hyper important parce qu'on voit que ça fonctionne. Malgré nous, là, les magasins gratuits, tout fonctionne bien, c'est hyper simple. Ça, la gratuité, pour moi, c'est simple. On enlève tellement de complications liées à un monde marchand. Et toutes les complications qu'on a, nous, au sein de l'association et tout, tout ce qui est compliqué, généralement, presque tout est lié avec l'argent. Parce que malheureusement, pour mettre en place les initiatives de gratuité, on est lié au système marchand. Et ça nous complique tout.
À un moment donné, on le rend compte, ouais.
Les dossiers, les machins, les subventions, les assurances, les trucs, les arrêts maladie, enfin tout est compliqué, il y a des versions différentes, tout le monde se mélange les pinceaux, même les salariés des structures, des institutions en place, des fois ils ont des discours totalement différents, enfin tout est compliqué. Et sur l'aspect de l'action en elle-même, la gratuité c'est vraiment d'une simplicité déconcertante. Et on enlève, bah, là aussi on peut se projeter dans un monde non marchand, le nombre d'activités qu'on n'aurait plus besoin de faire. Il n'y aurait plus de banque, plus d'agents immobiliers, plus d'assurance, plus de plus la CAF, plus les mutuelles, plus la CPM. Enfin, il y aurait tellement de choses qui disparaîtraient, on irait dans la simplicité. Et ce qu'on remarque aussi beaucoup à Metz, à travers les initiatives concrètes, c'est qu'il y a des personnes qui découvrent ça par hasard et qui ont envie de refaire pareil ailleurs, qui nous posent des questions, qui nous recontactent en nous demandant des informations, un retour d'expérience pour développer des initiatives de dans une autre commune et ça c'est hyper
ça
important
neige,
pour nous
hein.
c'est ce qui est presque le plus important, c'est de montrer ce qui est possible de faire et de donner envie à d'autres de faire pareil, parce que plus on sera nombreux à mettre des initiatives de ce type, plus il y aura des îlots de gratuité et de partage, et après il faut relier ces différents îlots de gratuité pour montrer que ça a du poids et que ça prenne encore plus d'ampleur et qu'on arrive à un moment donné où c'est vraiment où ces initiatives de partage commencent à prendre de plus en plus de poids face à la marchandisation.
Bon bah super, ouais. tu nous donnes un beau projet de société quoi aussi. Et peut-être au-delà d'un projet, peut-être une évolution qui est en cours. Hein. Et qui va s'amplifier quoi.
Je pense que oui, là, je pense qu'on est au tout début. Là, on voit, par exemple, bon, c'est rien du tout, c'est des toutes petites initiatives. Par exemple, les boîtes à livres, c'est assez récent, hein, et maintenant, il y a presque des boîtes à livres dans chaque commune. Donc là, c'est, on va dire, c'est le premier tout petit pas. Mais après, peut-être qu'on va dire, bon, on va mettre des boîtes à partage avec tout type d'objets et que ça va se développer dans toutes les communes. Et après, que ça va être l'étape supérieure des espaces, des locaux où on pourra aller à l'intérieur, où ça sera gratuit. Et ces étapes, je pense que c'est des petites étapes nécessaires pour arriver à un projet de plus grande ampleur. Et nous, chacun à notre niveau, on peut prendre part à ça. On en avait déjà discuté. L'objectif, enfin, il y a plein de choses à faire, mais un des objectifs, ça serait de ce que vous faites déjà, hein, c'est recenser les initiatives de gratuité.
Oui, alors relier... c'est à travers l'association Gratilib. C'est pas le local sortir sans payer, mais oui.
Voilà, donc recenser un peu ce qui se passe, relier les différentes initiatives. Par exemple, aller dans les médias, montrer tout, expliquer tout ce qui se passe au niveau de la gratuité en France, et après de dire que si vous voulez développer des initiatives de ce type, qu'il y a des personnes qui sont là pour accompagner gratuitement les gens qui veulent mettre ça en place.
Oui, oui. Bon, super, bah, merci beaucoup Olivier hein, pour être venu discuter avec nous de tout ça et puis présenter votre chouette projet. Tu peux rappeler le nom de votre association pour les auditeurs ?
C'est l'association Motrice. M-O-T-R-I-S.
Ok,
et
ok.
Les magasins gratuits, comme je disais, on les appelle les trucothèques.
Eh ben, trucothécon, ça, c'est un beau slogan. Un peu dur à dire, mais. Allez, Olivier, merci beaucoup.
Merci.
Et,
merci à vous.
On se retrouve, quant à nous, bah, le mois prochain, pour peut-être, ou tout au mois de septembre, pour une nouvelle émission de Entrée sans payer. Donc là, vous pouvez sortir sans payer. Mais restez quand même sur Radio Balade, parce que c'est la meilleure radio de la région, de loin. Non, sans vouloir faire de l'ombre aux concurrents.
Merci Olivier.
Allez, merci.
Merci, au revoir.
Un petit morceau qui s'appelle « C'est du Satie ».